VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. RDC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé ce jeudi la découverte d'un premier cas d'Ebola en zone urbaine dans le pays, alors que tous les cas recensés jusqu'à présent étaient localisés dans une seule zone rurale, la région de Bikoro. Le nouveau cas a été confirmé à Rwangata, l'une des trois zones sanitaires de Mbandaka, une ville de près de 2,2 millions habitants de la province de l'Équateur dans le nord-ouest de la RDC. L'arrivée d'Ebola dans une zone urbaine est très préoccupante et l'OMS et ses partenaires travaillent ensemble pour intensifier rapidement la recherche de tous les contacts du cas confirmé dans la région de Mbandaka, a déclaré le docteur Machi Diso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Mbandaka est situé à 100 km de Bikoro, l'épicentre de l'épidémie, et à 700 km de la capitale Kinshasa. Au carrefour de plusieurs cours d'eau, notamment le fleuve Congo et la rivière Ubangi, la métropole de l'Équateur approvisionne la capitale en poissons et en vivres. Le trafic par bateau et pirogue sur le fleuve Congo est intense entre les deux villes. Selon un correspondant de l'AFP à Mbandaka, aucune disposition particulière n'est encore prise par les autorités sur le terrain pour contrôler les déplacements entre Mbandaka et Bikoro d'une part et entre Mbandaka et Kinshasa d'autre part. Burundi, les Burundais votent ce jeudi dans un référendum sur une réforme de la constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza, 54 ans et au pouvoir depuis 2005, de rester aux commandes du pays jusqu'en 2034. Les 11 076 bureaux de vote sont ouverts depuis 6h heure locale, 4h temps universel, et les électeurs sont appelés aux urnes jusqu'à la clôture du scrutin à 16h heure locale, 14h temps universel. Le bulletin de vote ne comporte pas de questions, cela paraît la mention référendum constitutionnel de la République du Burundi de mai 2018, avec les cases oui et non. Ego et Oya en Kirundi, la langue locale, à remplir par les lecteurs. Les enjeux de ce scrutin avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le vote se déroule sans observateurs internationaux. Des milliers de policiers et de militaires ont été déployés pour la protection des électeurs et des centres de vote. Beaucoup d'observateurs nationaux et étrangers affirment que le oui pour le changement de la constitution va triompher. Le président de la Commission nationale électorale, Pierre Claver Ndayicharié, a dernièrement indiqué que la participation de la population lors de l'enrôlement des électeurs a été enthousiaste, volontaire et massive grâce à la mobilisation effectuée par les hautes autorités de la République. 4 500 000 électeurs ont été recensés. Ndayicharié demande à la population de garder les attestations d'inscription qui seront demandées pour les autres scrutins qui vont être étalés jusqu'aux dernières élections des conseillers des collines et des quartiers de 2020. Rappelons aussi que l'activiste des droits humains Pierre Claver Mbonima estime que la réforme constitutionnelle enterre les accords d'Arusha, un médicament que les Burundais avaient trouvé avec feu Nelson Mandela pour préserver le Burundi de la maladie de la guerre ethnique. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Cameroun, cri de détresse des évêques camerounais face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du pays. Les prélats ont souligné mercredi la nécessité d'une médiation pour éviter une guerre civile inutile. Jean-Roger Bion.
À tous les Camerounais, nous lançons un cri de détresse au nom de Dieu le Tout-Puissant, écrit les évêques dans une déclaration. Nous, évêques du Cameroun, estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ont-ils ajouté. Les dignitaires catholiques ont aussi plaidé, épargnant notre pays, le Cameroun, d'une guerre civile inutile et sans fondement, appelant les partis à prendre le chemin du dialogue, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Les évêques rappellent que depuis 2016, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent des situations difficiles, marquées par des violences inhumaines, aveugles, monstrueuses et une radicalisation des positions qui nous inquiète. Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises déployées en force et des hommes armés se réclamant des forces de restauration d'un État anglophone qui avait éphémèrement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique.
RCA, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a repris le contrôle de la ville de Bambari dans le centre du pays après l'attaque de plusieurs institutions de cette ville lundi et mardi. C'est ce qu'affirme un communiqué de la force onusienne publié mercredi. Selon le document, des hommes armés, présumés affiliés au groupe armé UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, ont attaqué lundi soir et mardi matin la gendarmerie de Bambari, le commissariat ainsi que la base de la MINUSCA dans la ville. 8 personnes ont perdu la vie dans les combats.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le nord du Nigeria, des dizaines de personnes ont été enlevées ces 4 derniers jours sur une route dans l'état de Kaduna. Des bandes armées sévissent dans cette région, selon des habitants. Irénée Herman Ogbo.
Un très grand nombre de personnes ont été enlevées le week-end dernier. Les assaillants ont élevé des barricades sur la route au niveau de la localité de Birne Gwari qui mène vers Kaduna. Ils forçaient les voitures à s'arrêter et ont conduit leurs victimes dans la forêt. Selon un témoin, difficile de dire avec précision combien ont été enlevés, mais plus de 10 véhicules dont des bus ont été vidés et abandonnés le long de la route. Le porte-parole de l'émir de Birne Gwari, Issa Mohammed Galadima, estime quant à lui à plus de 100 le nombre de personnes enlevées. Les gangs ont profité de l'absence de la police habituellement déployée le long de la route pour commettre leurs actes. Des policiers ont été déployés autour des bureaux de vote pendant les élections locales qui ont eu lieu ce week-end dans la région. Le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Mukhtar Aliou, affirme n'avoir reçu aucun compte-rendu de ces incidents.
Au Sénégal, le mouvement commencé lundi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis gagne d'autres universités du pays. Il y a eu des accrochages entre les forces de sécurité et les étudiants mercredi dans plusieurs localités. Et la veille, un étudiant en lettres, Mohamedou Fallou Sen, 25 ans, avait été tué et 18 policiers blessés dans des affrontements mardi alors que les étudiants réclamaient le paiement de leur bourse. Babacar Sissé, coordonnateur des étudiants de Saint-Louis, donne des détails sur l'agitation dans le monde universitaire.
Le mouvement, en fait, ne va pas s'affaiblir. Suite à la mort de notre camarade, le combat ne peut pas s'arrêter. On est une structure très forte. Nous, on a des principes. Nous, on s'en fout de ces considérations politiques ou bien électorales. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la quiétude de nos camarades étudiants. Garde aux politiciens qui veulent, en fait, utiliser le meurtre de Fallou, en fait, pour asseoir leur base politique. Nous leur disons que vous allez nous trouver ici. Nous n'allons jamais, au plus grand jamais, accepter que nos souffrances soient utilisées, en fait, à des fins politiques ou bien à des fins de gagner des voix.
Babacar Sissé, coordonnateur des étudiants de Saint-Louis au Sénégal. Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump a marqué le premier anniversaire de la nomination de procureur spécial dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016 aux États-Unis par un tweet où il qualifie l'enquête de pire chasse aux sorcières de l'histoire du pays. Comme il l'a déjà fait à de très nombreuses reprises, le chef de l'exécutif américain a nié une nouvelle fois toute implication de sa campagne présidentielle dans les manipulations de Moscou destinées à faire échouer son adversaire démocrate Hillary Clinton. Rappelons que l'enquête a été confiée le 17 mai 2017 à Robert Mueller, un ancien patron du FBI, la police fédérale et haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Le procureur spécial est doté de pouvoirs élargis et en un an, Robert Mueller a inculpé plusieurs ressortissants et entreprises russes pour leur rôle dans une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux en 2016 visant à augmenter les chances de victoire de Donald Trump. La Russie nie catégoriquement toute collusion, mais les services de renseignement américains estiment que le président russe Vladimir Poutine en personne a décidé de la campagne de cyberpropagande. Et actualité américaine toujours, la nomination de Gina Haspel, choisie par le président Donald Trump pour diriger la CIA, les services secrets américains, a été approuvée mercredi par une commission du Sénat, malgré le rôle controversé de Mme Haspel dans des programmes d'interrogatoire musclés de suspects de terrorisme. Il s'agit là d'un cap décisif avant un vote final de la Chambre haute du Congrès. Le point avec Marie Benson.
Âgée de 61 ans, Madame Haspel est actuellement directrice adjointe de la CIA, où elle travaille depuis 33 ans dans les opérations clandestines. Elle avait créé la polémique pour avoir dirigé en 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où les suspects étaient souvent torturés. Gina Haspel a été auditionnée pendant plusieurs heures la semaine dernière. Elle avait affirmé que la torture ne marchait pas et a promis de ne plus y recourir si elle était désignée à la tête de la CIA. L'ensemble du Sénat, où les Républicains ont une très courte majorité, doit maintenant se prononcer. Le vote est attendu d'ici la fin du mois. Madame Haspel, si elle est confirmée, sera la première femme à la tête de l'agence de renseignement pour succéder à Mike Pompeo, devenu secrétaire d'État américain.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.